ça me fait réagir et ça me questionne sur la conception, la création, enfin ce qu'on parlait au début en fait. C'était juste une réaction, voilà.
En formation initiale, nous, on les fait travailler sur justement ce qu'on peut trouver sur le net. Et on leur demande aussi de nous apporter ce qu'ils ont trouvé, qu'on travaille à partir de ça. Justement, il faut leur apprendre. Bah, c'est là, ça existe de toute manière. C'est comme avec les élèves. Hein. Voilà, ils peuvent trouver des fiches de lecture toutes prêtes, des résumés tout prêts. Donc c'est là, ça existe. C'est plutôt comment on fait pour s'emparer de ça, pour avoir un regard critique sur ce qu'on trouve. Mais comme c'est là, bon, ben bah, voilà. Mais par contre, il faut que ça devienne un objet de travail, je pense, avec...
Absolument, moi c'est vraiment ça, c'est pour que ça devienne un objet de travail. On ne peut pas fermer les yeux et dire non, c'est généralisé, généralisé. Allez.
Voilà. Alors, nous avons donc demandé pour remplacer Yves Rotter, je vous le rappelle, qui est malade, à Isabelle et Karine, ou Karine et Isabelle, dans le sens que vous voulez, d'essayer de tirer les grands fils de cette journée, des grandes, d'avoir un peu une position de surplomb et éventuellement d'ouvrir la discussion.
Alors, n'est pas Yves Rotter qui veut, hein, bien sûr, donc... Voilà, donc on ne prétend pas le remplacer, mais voilà, vous proposez ben, nous ce qu'on a retenu de ce qui a pu être dit tout au long de la journée, et puis peut-être ça continue d'alimenter des questions et vos réflexions. Alors, moi j'ai trois points qui, enfin voilà, je les ai catégorisés sous trois points qui sont donc une espèce de masse en trinité de la journée. Hein, voilà, c'est d'un côté donc beaucoup de choses qui ont été dites sur une forme de spatio-temporalité du métier. Je vais revenir dessus. Un deuxième point qui porte plus sur les tensions entre contraintes et créativité. Et un troisième point qui est peut-être l'essence du métier. J'avais appelé ça au début humain, trop humain, mais notre métier, c'est soit avec soi-même, soit avec les autres étant pris au sens très large. Alors sur le premier point, il y a un mot qui est revenu, il y a je ne sais pas combien d'occurrences de ce mot, parce que je n'ai plus mon ordinateur, mais ce matin, le mot espace a été dit à quasiment chaque intervention. Tout le monde a parlé à un moment de la nécessité, alors soit de créer des espaces de parole pour les élèves, que ce soit de la parole vraiment verbale ou de la parole non verbale ou silencieuse, des espaces de parole pour les enseignants, pour dire des difficultés, pour dire ce qui est eu dans d'autres lieux, ce que disait Karine tout à l'heure, des espaces pour penser soi-même, pour penser avec les autres, pour travailler avec les autres, des espaces de concertation. Voilà, enfin, il y avait quelque chose de très fort autour de la nécessité de proposer des espaces où on peut dire les choses et où on peut les dire d'une manière la plus authentique possible, c'est le terme qu'on a utilisé cet après-midi, mais où on peut véritablement échanger et prendre aussi en compte les lieux de travail finalement. Hein. Il y avait l'exemple d'Hélène en fin de matinée où on a un espace à soi bien spécifique où on se retrouve à l'écart des autres. Voilà. Donc il y a vraiment la nécessité qu'on nous donne la possibilité d'avoir des espaces, voilà, d'expression où on sent un petit peu autorisé à dire des choses, à exprimer des choses. Ce qui s'accompagne forcément aussi la question du temps. Pour penser avec les autres, travailler avec les autres, il faut aussi avoir des conditions temporelles qui le permettent. Hein. Quand est-ce qu'on a le temps de penser avec les autres quand on reçoit des injonctions constamment, quand on a de plus en plus de charges administratives aussi, parce que les enseignants ont aussi des charges administratives qui augmentent. Hein. Quand on est, j'imagine, prof principal en troisième ou en seconde, enfin au lycée, on a des charges énormes. Et à quel moment on n'est plus en train d'être en train de pédaler, mais on a du temps pour vraiment penser et réfléchir. Donc la question du temps aussi, qui me semble importante, elle est aussi sur le temps long. On a parlé du développement professionnel et donc du parcours de chacun. Et ça se pense sur du temps long, pas sur du temps court. De la même manière qu'on a parlé du temps de l'apprentissage des élèves, ben nous, on est toujours sur un temps assez court, finalement, une année scolaire. Le temps de l'apprentissage, c'est du temps long et on ne prend pas tellement en compte cette temporalité nécessaire de l'apprentissage. Mais c'est pareil pour les enseignants, en fait. Même pour eux, il y a besoin de temps pour s'approprier des nouveaux dispositifs, des nouvelles formes de travail. Et puis, du temps aussi pour s'installer dans des pratiques et dans des programmes. On a dit, hein, ce mouvement incessant de programmes qu'on met en place en 2016, qu'on ajuste en 2018. Enfin, voilà, voilà. Et on change constamment. Et on dit qu'on ne changera rien, mais en fait, on est là pour changer. Voilà. Donc, cette question du temps qui va aussi avec la question, de l'espace. Le deuxième point, donc, c'était tout ce qui avait trait aux tensions qu'on vit, qui sont inhérentes aussi à notre métier, entre les contraintes imposées par l'institution et puis la liberté, voilà, une liberté créatrice. Et j'ai trouvé en ça que l'exemple de l'Oulipo, c'était quasiment une mise en abîme, finalement. C'est-à-dire qu'on a des contraintes qui sont là, qu'on doit respecter, mais qui nous offrent finalement un espace de liberté incroyable. Or, là, en ce moment, les contraintes qui nous sont données... Pardon ? Mais oui, mais justement, c'est qu'on voit bien que c'est une contrainte pensée qui va favoriser la créativité. Là, l'impression qu'on a quand même en ce moment, c'est qu'on est dans une contrainte qui tue toute liberté, ou en tout cas qui tue tout sentiment de liberté et de créativité. Et c'est comment on peut insuffler, nous, justement, aux collègues, ce retour à une créativité prise dans le respect des contraintes institutionnelles. Et ça, c'est pas évident du tout à faire, mais je pense que du point de vue de la formation, ça va être un enjeu extrêmement fort. Enfin, moi, je l'ai vécu il y a pas si longtemps, il y a 3 semaines, sur un stage de formation continue qui portait sur l'écrit d'invention. Ça tombe bien, hein, à l'heure où l'écrit d'invention est supprimé aux épreuves du bac. Et on avait évidemment beaucoup d'enseignants de lycée qui étaient inscrits. Et donc, comment les motiver à poursuivre le travail qu'ils ont pu mettre en œuvre dans les écrits d'invention, alors même que ça ne va plus être un enjeu pour le bac, quoi. C'est pas facile, et on avait en face de nous des enseignants à la fois qui avaient très envie de poursuivre, et en même temps qui étaient dans un état de très grande démotivation, pour pas dire de dépression, hein, mais enfin vraiment, et qui étaient dans un état de grande fragilité et qui savent plus du tout où ils en sont. Ils ont l'impression que finalement ils peuvent plus travailler, ils ont l'impression d'un retour en arrière incroyable. Et comment on les amène justement à continuer d'être dans cette créativité qu'ils avaient commencé à mettre en œuvre, parce que cette créativité peut-être elle peut servir la contrainte. Et pourquoi un sujet d'invention il peut pas permettre de travailler la dissertation ensuite derrière ou l'explication de texte. Et ça, ces enjeux là ils vont être très forts, alors particulièrement au lycée, mais je crois ils sont très forts à tous les moments de l'enseignement, en fait, hein. C'est cette tension là qu'on vit et à laquelle on doit vraiment faire face et s'ajuster. Ça va être vraiment le travail de la formation que d'essayer d'accompagner les enseignants. Et puis le troisième aspect, en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que oui, j'ai écrit humain, trop humain, parce que oui, quand même, effectivement, c'est un métier de l'humain avec une part d'engagement de la personne qui est extrêmement forte. Enfin, s'engager dans ce métier, c'est aussi engager de sa personne. On a quand même beaucoup de mal à dissocier la personne qu'on est de l'enseignant qu'on est, des valeurs qu'on porte dans notre métier. Hein. On est un espèce de tout et on enseigne aussi avec ce qu'on est. Et donc, pour moi, il y avait plusieurs aspects qui montraient que notre métier, c'est un métier d'engagement de la personne, donc quelque chose de très identitaire, un métier donc où il faut vraiment se regarder soi. Il y a quelque chose de soi à soi dans ce métier, qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on porte comme valeur et quel enseignant on a envie d'être. Et puis aussi un métier d'ajustement, alors parfois à soi-même, mais d'ajustement aux autres, d'ajustement aux collègues avec qui on travaille, d'ajustement aux élèves qu'on a en face de nous, et puis d'ajustement à la hiérarchie aussi, parce qu'elle a quand même été très présente toute la journée, elle est très, très, très présente dans nos vies professionnelles au quotidien en ce moment. Et donc ces ajustements-là, ils viennent un peu quand même nous bouleverser dans notre identité, dans ce qu'on veut être. Alors, soit effectivement... on n'a pas de problème particulier avec ça et on se dit qu'on va continuer à créer comme on le faisait avant et on fait avec les réformes parce que de toute façon les ministres ils passent aussi et puis des réformes on en vivra d'autres, mais c'est pas évident dans un moment où on sent un petit peu plombé et où on sent un poids très fort de la hiérarchie qui essaie de reprendre la main sur nous, en fait, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose, je pense, au quotidien, c'est vraiment ça que les enseignants vivent, hein, l'impression d'une espèce de chape de plomb. Et donc, l'espoir, ça va être de ça. C'est comment nous, on peut agir pour que ce plafond de verre qui nous étouffe un peu, il se brise pour nous redonner un petit peu d'air, quoi. Voilà.
On voudrait vraiment vous solliciter et vous entendre rebondir peut-être sur les trois pôles proposés par Isabelle ou rebondir aussi par rapport aux interventions entendues depuis ce matin. Donc le micro est à vous. Bien fort ou tout.
Il y a Mathieu juste devant.
Oui, Mathieu.
Bonjour. Moi, je voulais rebondir surtout sur l'ensemble de la journée, en fait. Ça va, là ?
Oui, voilà.
OK. Je vais essayer de faire vite, mais il y a trois choses. J'ai l'impression qu'on a tourné autour de trois choses toute la journée, qu'on n'a pas vraiment nommé sur ce que c'est, sur l'exercice du métier de prof, et particulièrement de prof de français aujourd'hui. J'ai eu tout le temps en tête la question de ce qu'on appelle la forme scolaire. Les formes, la géographie de l'établissement, de la classe, la distribution des élèves, etc. Je fais allusion en particulier à des travaux que je connais de mieux en mieux, qui sont ceux de Anne Kerrien et Vincent Fayet autour de l'enseignement mutuel, la classe mutuelle, dont je pense que ça peut être une des clés pour la réflexion sur l'enseignement aujourd'hui, et notamment du français. Ça, c'est le premier point. Deuxième figure absente un peu, je pense à Jacotet, un peu une journée avec figure absente, c'était Freinet. On a entendu parler une fois, mais je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup tourné autour de on a entendu le Quad Neuf, on a peut-être eu envie d'entendre quelque chose comme le marché des connaissances, toute une série de pratiques comme ça qu'a inventé Freinet et qui, dans une période où celle qui est très, très à la mode, c'est Montessori, et une Montessori en plus assez mal digérée, je crois. Je trouve que remettre Freinet au goût du jour, ça m'intéresse beaucoup, en plus pour des raisons d'engagement personnel aussi. Et puis, mais c'est lié avec l'idée de Freinet. Je trouve qu'on a tourné autour de la question politique. C'est-à-dire que j'entends dire que c'est un ministre qui va passer et qu'il va y avoir des réformes et qu'on aura d'autres ministres. Je ne suis pas complètement d'accord. Je pense que ce ministre-là est très particulier, que son cabinet est très particulier. Je pense qu'il y a une répression très forte qui s'abat sur les enseignants qui essayent d'avoir une forme d'esprit critique. Je pense que les programmes qui s'abattent sur nous, je n'ai pas d'autre expression, sont des programmes extrêmement... qui reculent. Rétrograde, on va dire. Réactionnaire, même, oui. Voilà, je me bats contre ces programmes. J'ai écrit dans une revue qui va paraître, qui essaye de dire que ces programmes-là sont fous. Et puis, je pense aussi que ce ministre, il n'arrête pas de gronder des enseignants et des inspecteurs et des formateurs parce qu'ils ne sont pas respectueux de l'institution. Sauf qu'il y a la DGESCO, il y a le CSP ancienne version, il y a le Conseil supérieur de l'éducation. Bref, toutes les institutions qui tournent autour du ministère et qui sont des contre-pouvoirs démocratiques lui ont dit que ce qu'il faisait n'était pas bien. Et il s'en fiche. Et il continue d'avancer avec le soutien de notre président. Donc je crois qu'il y a besoin définitivement d'un engagement politique fort de notre part face à cette administration très très dure, que moi je trouve très très dure. Et on parle parfois de langage orwellien. Et je me demande à quel point il n'y a pas que le langage, en fait. Voilà. Et je pense que les jeunes professeurs qui arrivent aujourd'hui, et peut-être les anciens avec qui je peux discuter en salle des professeurs, devraient pratiquer une forme de pédagogie critique, y compris à leur égard et à l'égard de leur ministre. Voilà, c'était mon point de vue.
Quelqu'un veut répondre ?
Comment on aborde la question politique ? Moi, je veux bien m'exprimer un petit peu. On se tutoie tous, hein, ça va être plus simple. Je partage complètement ton point de vue, parce qu'on voit bien que ce qui est à l'œuvre au ministère de l'Éducation nationale l'est aussi dans celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous des formes qui sont très, très proches. Et dans notre journée, moi, j'ai trouvé, en tant que parlementaire, qui manquait un point, c'était comment vous vivez aujourd'hui la frénésie d'évaluation en permanence et les obligations politiques pour augmenter l'évaluation et faire, c'est dans le projet de loi dont on discute la semaine prochaine, que ça permette une classification des établissements et qu'ensuite, ça donne la possibilité aux chefs d'établissement de choisir aussi les enseignants qui pourraient ou ne pourraient pas venir en fonction de l'évaluation des établissements. Donc, on va très loin hein, dans ce que tu dénonces à raison. Ça, c'était le premier point. Le second point, je crois que, de façon très forte, l'idéologie dominante, je suis désolé, je vais être un peu brutal, c'est celle de Margaret Thatcher, c'est-à-dire que la société, ça n'existe pas. Et l'éducation nationale s'adresse à des individus isolés de leur contexte social. Et elle estime que quand le gamin le veut, il y arrive indépendamment de son contexte social. C'est si tu veux un boulot, tu traverses la route, c'est le mérite. Et la méritocratie macronienne, c'est celle-là, c'est la négation du social. Hein. Ce qui est paradoxal, parce que c'est aussi un ministre qui dit qu'il faut mettre des moyens supplémentaires dans les REP, etc. Ensuite, il y a, moi je suis entièrement d'accord avec ça, une normalisation de la pensée forte à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et moi, j'ai entendu ici, au Sénat, dans l'hémicycle, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche disant, à propos de l'augmentation des frais d'inscription, que les professeurs devaient devoir et obéissance. Hein ? C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix par rapport à cette réforme-là, que vous considérez comme injuste, vous l'appliquerez aux professeurs d'université, alors que leur liberté académique est reconnue par la Constitution. Ce qui n'est pas votre cas hein, pour les classes dans lesquelles vous enseignez. Donc il y a aussi une reprise en main idéologique qui n'est pas spécifique à la France, qui est générale, avec un retour du roman national, d'un certain nombre de choses. Tu peux aller de monde orwellien. Quelque part, ça ressemble à ça, en effet. Voilà, je veux pas être plus long et... Comme je ne parlerai pas après, je vous remercie très sincèrement pour cette journée qui, moi, m'a appris énormément. Et j'espère, à mon petit niveau, me faire votre porte-parole la semaine prochaine dans l'hémicycle pour défendre le beau métier d'enseignante et d'enseignant. Voilà.
Merci pour cette conclusion qui ne pouvait être plus engagée et politique. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Certaines sont déjà parties parce que c'est prendre une journée de votre temps. Je sais qu'il pleut. Mais enfin, quand même, vous ne pouviez pas le savoir quand vous êtes engagé qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. En fait, on l'avait commandé, mais on ne vous l'avait pas dit, hein, la pluie. Merci beaucoup. Je crois que personnellement, c'est une journée aussi où j'ai beaucoup appris, où j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit. Et j'espère que c'est partagé, puisque nous sommes tous en train de continuer à nous former perpétuellement. Les échanges, nous n'avons pas eu beaucoup de temps de parole, je le regrette, mais ce n'est pas le choix que nous avions fait. Nous avions fait le choix d'une journée qui apporte beaucoup, qui donne beaucoup dans la multiplicité. Et si on veut faire une journée dans laquelle on échange beaucoup, c'est autre chose. Bon, voilà. Et donc là, c'était vraiment une journée où nous voulions apporter des exemples pour positiver. Parce que dans cette période où c'est difficile politiquement, c'est difficile dans les classes, s'il n'y a pas des espaces comme ça où on peut recréer des collectifs et où on peut apporter un peu d'éléments positifs, c'est-à-dire même dans les pires, même dans les pires situations, eh bien, quel est le petit fil qu'on va pouvoir tirer qui va nous permettre d'arriver à faire que le métier soit possible et que nous puissions aider les élèves. C'est notre, je crois que c'est notre fil conducteur à la FEF. Ceux ou celles qui ne nous connaissaient pas, rejoignez-nous, inscrivez-vous, adhérez, venez nous voir régulièrement. Nous organisons régulièrement des journées, bon, pas aussi souvent dans un lieu aussi prestigieux que celui-ci. Mais bon, Mais bon, mais nous organisons régulièrement des journées. Nous en organiserons aussi en province. C'est plus difficile pour nous. C'est vrai que c'est plus facile de venir ici pour les Parisiens que pour les autres. Mais voilà, il y a aussi des gens qui sont venus de province aujourd'hui spécialement et qui font l'effort. Et merci à toutes et à tous. Pour moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir, donc j'espère que vous aussi. Alors, si, encore une chose à dire. Je le dis ou... Oui, voilà. Donc, Pierre Ouzoulia nous propose, avec Marilène Cœur-Joly, que je voudrais vraiment remercier très, 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 très fortement tous les deux, parce que vous avez fait un gros travail, et Marilène a été vraiment d'une facilité de travail et d'une gentillesse continuelle. Jusqu'à hier soir, je lui envoyais des noms en lui disant « Est-ce que je peux encore rajouter un tel ?» parce qu'il y a eu un petit problème dans l'inscription et ça a toujours été oui. Donc vraiment, je voudrais vraiment vous remercier tous les deux. Et Pierre nous propose de faire un tour dans le grand salon du Sénat, pas dans l'hémicycle puisqu'il est fermé, mais dans le grand salon. Et vous allez voir, si vous avez 10 minutes... Faites-le, enfin venez avec nous parce que c'est vraiment un très très bel endroit.
Je vous demanderai juste de ne pas vous promener dans les lieux annexes. Et après, moi je le dis pour les enseignants qui sont de l'Île-de-France, je suis toujours disponible pour accueillir des classes. Ici, je le fais très régulièrement et je trouve qu'un cours d'instruction civique fait dans l'hémicycle du Sénat, ça a de la gueule. Voilà.
Tu gères les gens de ton groupe, pardon.
Ah, merci.
Avec les mails. Oui, vous me l'avez dit.